Nous prenons nos Bibles dans le livre de Genèse, au chapitre 25. Genèse, chapitre 25, à partir du verset 19. Genèse 25, verset 19. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padam Aram et sœur de Laban l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ce peuple sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Jacob faisait cuire un potage. Ésaü revint des champs, accablé de fatigue, et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Et il le jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Amen. Voici la parole de l'Éternel. La Bible dit que Ésaü était le fils aîné. Et en tant que fils aîné, il avait une autorité naturelle que Dieu a donnée. Cette autorité, c'est le droit d'aînesse que Dieu lui a conféré. Et le droit d'aînesse représentait en quelque sorte, donc à l'absence du père, c'est Ésaü qui avait cette autorité-là. Et pour bien comprendre ça, parce que dans notre contexte occidental, où il y a quand même le respect, mais on n'a pas cette notion-là du respect du plus âgé, dans les sociétés orientales ou en Afrique, il y a beaucoup cette notion-là où on respecte celui qui est plus âgé que nous. Et Ésaü avait ce droit-là que Dieu lui avait conféré, naturellement. Mais voilà qu'Ésaü, comme on a lu, méprisa le droit de naissance qu'il avait reçu. Alors on peut se poser la question, se dire, oui, mais c'est Dieu qui avait prévu les choses ainsi. Non, Dieu est Dieu, il connaît l'avenir. Mais ce n'est pas parce qu'il connaît l'avenir qu'il va pousser les gens à faire des choix contraires à sa volonté. Lui, il voit, c'est comme s'il y a un procès, à huis clos, eh ben lui, il a la capacité de savoir quel est le verdict du procès. Mais ce n'est pas lui qui influence le juré ou les juges pour prendre une décision. L'homme est libre. Dieu a laissé le libre choix à l'homme. C'est ça l'amour de Dieu. Et dans cette liberté-là, Ésaü décide, il dit, eh ben mon droit d'aînesse, je m'en sépare. Alors, en méditant ce passage, je me suis posé la question. Si ce droit de naissance était une somme d'argent, ou un capital qu'il avait, un lingot d'or, est-ce que Ésaü aurait pu s'en séparer pour le donner à son frère pour un plat? Je ne pense pas. En fait, Ésaü, ce qu'il a, on voit, donc il dit au verset 32, je crois, il dit, verset 32, Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit de naissance? Il dit en quelque sorte, là, j'ai faim. Comme dans le français courant, on dit, ventre affamé n'a point d'oreille. Il dit, moi, à ce moment, j'ai faim. Alors le droit de naissance, eh ben, peu m'importe. Ça ne me sert à rien. Moi, ce que je veux, c'est manger tout simplement. Et comme je disais tout à l'heure, le droit de naissance, ce n'est pas quelque chose de physique. Ce n'est pas une richesse physique qu'on peut tenir. Parce que si c'était le cas, il n'aurait pas pensé comme ça. Pourquoi il pense comme ça? Parce qu'il se dit, eh ben, de toutes les façons, le droit de naissance, moi, je ne le vois pas. Là, j'ai faim, je veux manger. On a lu que c'était un homme qui était habile, qui était un homme des champs. Donc, c'était un homme qui était habitué à travailler à du tic au tac. Il était habitué à cela. Et voilà que le droit de naissance, ce n'est pas quelque chose qu'il pouvait manger, qu'il pouvait bénéficier rapidement. Et un autre point aussi, c'est que pour que le droit de naissance fonctionne, il fallait que son père meure. Il fallait que Isaac ne soit plus là. Donc tout ça, pour lui, c'est tellement lointain. Lui, ce qu'il veut, c'est toucher. Ce qu'il voulait, c'est avoir quelque chose directement. Et Jacob, malin, a compris. Il dit, bon, ok, donc on va faire un échange. Donc je te donne le plat et tu me donnes ton droit d'aînesse. Et la Bible dit, c'est ainsi qu'il méprisa le droit d'aînesse. C'est ainsi qu'il a méprisé l'autorité qu'il avait reçue de Dieu. C'est ainsi qu'il s'est comporté. Alors, l'exhortation d'aujourd'hui, c'est pour nous dire, ne cherchons pas les plaisirs immédiats en abandonnant notre identité de chrétien. Le chrétien charnel, c'est celui qui cherche des plaisirs immédiats. Il est chrétien. Lorsqu'on lit les enseignements de base, on dit, le chrétien charnel, c'est celui qui a accepté Jésus, c'est celui qui va à l'église, c'est celui qui prie de temps en temps, mais jusqu'à un certain niveau, après ça l'ennuie. Mais c'est dit aussi, le chrétien charnel, c'est celui qui dirige sa propre vie. Donc, il a compris que Jésus est Seigneur, mais il fait ses choix tout seul, selon son intelligence. Il cherche son intérêt. Comme j'ai dit tout à l'heure, le droit de naissance, c'était quelque chose qui allait agir dans l'avenir. Ce n'était pas quelque chose pour le présent. Mais lui, il voulait le présent. Lui, c'est maintenant. Comme beaucoup disent, c'est maintenant que je veux être riche. C'est maintenant que je veux être fort. On te dit, oui, travaille, fais telles études, et en fonction de ces études, voilà ce que tu gagneras. Et il dit, non, ça c'est trop long. Moi, je n'ai pas le temps. Moi, je veux travailler. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de jeunes préfèrent faire des filières professionnelles, parce que ils voient directement le côté pécunier, le côté financier directement. Ils se disent, je ne veux pas m'engager 10 ans dans des études pour souffrir, galérer. Non, il veut le présent. C'est cela. Le chrétien charnel, c'est celui qui cherche à toucher, celui qui veut palper les choses. On se souvient, Lot, lorsqu'il a vu les plaines, il a vu le beau paysage, il a tout de suite choisi. Abraham, qui était un homme spirituel, il a voulu que Dieu le conduise. Peut-être qu'à ce moment-là, ses yeux ont vu aussi le beau paysage. Il aurait pu être aussi tenté par cela. Et en tant qu'aîné, en tant qu'oncle, il aurait pu décider. Non, il a laissé Dieu faire. Voilà l'homme spirituel. L'homme charnel, lui, ce qui l'intéresse, c'est le présent. C'est vouloir toucher, quitte même à abandonner son identité de chrétien. Quitte à abandonner l'héritage qu'il a reçu du Seigneur. Comme on dit, en tant que chrétien, nous avons une autorité aussi. Sur les démons, nous avons une autorité sur le péché parce que nous avons le Saint-Esprit. Mais il faut vouloir utiliser cette autorité-là. Et nous avons encore des promesses qui sont liées à l'avenir. Et malgré toutes ces promesses, on se dit non, moi, oui, c'est écrit dans la Bible, mais moi ce que je veux, c'est aujourd'hui. Dieu te dit, sois calme, sois correct. Pendant 2 ans, voilà comment je te bénirai. On dit oui, Seigneur, oui, 2 ans, mais moi, aujourd'hui, là, regarde mon âge. Il faut que je me marie. Regarde ma situation. Ça fait 5 ans que je prie. Ça fait 10 ans que je prie. Et là, on est même prêt à faire des actes qui sont des actes de folie parce que, en réalité, on renie notre identité, on renie l'autorité qu'on a. Et c'est ce qu'a fait Ésaü. La Bible dit, il méprisa. Donc, en rejetant l'autorité qu'il avait, il a méprisé Dieu. Il a méprisé ce qu'il avait reçu du Seigneur. Pourquoi? La recherche du bonheur immédiat. La recherche du plaisir immédiat. Et l'homme est comme ça. Il ne pense pas à l'avenir, il pense au présent. Il pense à sa situation présente. Mais nous, en tant que chrétiens, nous devons apprendre à nous attendre à Dieu. Même lorsque la tentation est là, nous allons lire un passage d'un homme qui dit, il a failli tomber, mais comme on nous dit souvent, être près de tomber, ce n'est pas tomber. On se souvient qu'on est chrétien, on est enfant de Dieu, on dit, Seigneur, là, même si dans ma tête je suis parti, Seigneur, je refuse de déshonorer ton nom. L'exemple de Joseph, il a dit non, pourquoi je ferais cela à l'Éternel et à mon chef qui m'a établi? Il a refusé les avances qui lui avaient été faites parce qu'il connaissait son identité. Et malheureusement, beaucoup cèdent. C'est aujourd'hui. Il y a des mouvements dans les milieux chrétiens, ce qu'on appelle le mouvement de la prospérité qui vient du Kingdom Now, ça veut dire le royaume maintenant. Et qu'est-ce qu'ils disent dans ces choses-là? C'est que le chrétien a l'autorité, il a le pouvoir de décider sur les choses, pas seulement pour l'avenir, mais aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est que les chrétiens deviennent même sorciers, enfin les chrétiens, ces gens-là deviennent sorciers, parce qu'ils cherchent une puissance aujourd'hui pour faire des miracles, pour donner des paroles qui peuvent s'accomplir, pour faire des choses. Et voilà, on sort toutes sortes de théories parce que c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Or, Dieu n'est pas comme ça. La Bible dit qu'il est bon d'attendre le secours de l'Éternel. La Bible dit dans Lamentations 3:25 que Dieu aime ceux qui espèrent en lui. C'est cela. Dieu aime ceux qui espèrent en lui. Et Ésaü, un homme charnel, tout ce qui importait pour lui, c'était le présent. Il y a des gens qui prennent des décisions sans tenir compte de l'avenir. Ils prennent des décisions parce que, à chaud, parce qu'on m'a blessé, parce qu'on m'a fait mal, eh ben, on dit une parole, mais qui peut avoir des conséquences pendant longtemps. Qui prennent des décisions, quitter le foyer, et ça peut avoir des conséquences. Et là, quand le bon sens te revient, bon, tu es déjà parti. Il y a une voix qui te dit, oui, mais tu ne vas pas t'humilier, tu es déjà parti. Si tu reviens, mais pour qui on va te prendre? Allez, reste sur ta position. Malheureusement, beaucoup se font avoir comme ça parce qu'on recherche l'immédiat. Regardons la différence, le droit d'aînesse, une autorité de Dieu que tu as reçue et échanger ça contre une nourriture. Il suffisait qu'il attende. Ne serait-ce qu'une heure, ne serait-ce que deux heures pour avoir un bon repas et le manger copieusement. Il suffisait qu'il attende une heure, deux heures. Mais l'homme charnel, c'est l'immédiat. Saül, Dieu donne des promesses. Il parle par la bouche du prophète. Il voit que les hommes parlent. Dieu fait exprès. Les soldats partent, il prend la décision. Il dit, je me suis fait violence. Voilà l'homme charnel. C'est l'immédiat qui compte. Et le diable va jouer avec ça pour malheureusement faire sortir beaucoup du plan de Dieu. Nous sommes dans une société où tout va vite. Je connais une personne qui est fière de dire, moi je ne fais pas les courses dans les supermarchés. Moi je fais les courses sur internet et je vais au drive, j'y récupère. Voilà, donc tout est fait aujourd'hui pour, quand tu veux quelque chose, sur internet, tu cliques à la demande. C'est l'immédiat. Tout est immédiat. On a le micro-ondes. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'attendre. Et malheureusement, beaucoup comme Ésaü sortent du plan de Dieu pour une nourriture. Nous lisons Genèse au chapitre 3. On va dire l'origine même des choses. Genèse au chapitre 3. Verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, Quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Il en mangea. Donc nous revenons au verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Qu'est-ce qu'on voit? Lorsque Dieu a placé l'homme en Éden, il a donné des instructions. Et la pensée de l'homme n'était même pas, parce que c'était clair, Dieu lui dit, ne mange pas du fruit de cet arbre, sinon tu mourras certainement. Donc l'homme n'avait même pas une pensée par rapport à cela. Alors le diable vient pointer du doigt et il dit, ah bon, Dieu vous a dit ça? Non, Dieu sait que si vous mangez le fruit de cet arbre, à ce moment même, eh ben vous serez comme lui. Vous allez voir les choses comme lui. Est-ce que Adam et Ève avaient besoin de cela? Ils n'avaient pas besoin de cela. Mais on nous dit au verset 6, c'est comme si, à ce moment-là, les yeux d'Ève s'ouvrent. Elle dit, mais effectivement, l'arbre est beau. L'arbre est bon. Les fruits sont agréables. Donc, à ce moment où le diable parle, les yeux d'Ève s'ouvrent. Et il est écrit qu'elle a vu que l'arbre, les fruits de l'arbre, étaient agréables pour ouvrir l'intelligence. C'est ça que le diable fait. Le diable va te dire, mais tu as des capacités. Regarde, tu sais chanter. Je raconte souvent le témoignage d'une personne, la première fois que je suis parti en Angleterre, il y a plus de 10 ans, et il y a une sœur qui témoignait à l'église, qui disait que lorsqu'elle a commencé à chanter, il y a des producteurs, il y a même un producteur qui est venu des États-Unis, qui est venu à Londres pour rencontrer cette personne-là. Un producteur du monde, bien sûr. Et la fille était une chrétienne, 16 ans. Et il a invité cette fille dans un palace à Londres pour vraiment le tape à l'œil pour lui dire, regarde, la voix que tu as, on peut l'exploiter. Regarde ce que j'ai déjà fait comme travail. Regarde tout ce que je produis. Regarde tout ce que tu peux gagner. Alors là, on peut faire toutes sortes de projections. Hein. Tu gagneras tant, tu gagneras tant. C'est elle-même qui témoignait. Et elle dit, à ce moment-là, elle était perturbée. Elle s'est dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je suis ici à Londres, je galère, je souffre. Alors que j'ai la possibilité d'aller aux États-Unis, de faire carrière dans le showbiz, d'être connu mondialement avec la voix que j'ai. Alors pourquoi perdre mon temps? C'est ça, la proposition du diable. Il dit, mais regarde. Regarde comment tu es. Or, en réalité, l'homme avait l'autorité que Dieu lui avait donnée. Adam et Ève étaient créés à l'image de Dieu. Adam a eu le pouvoir de baptiser, de nommer tous les animaux. Il avait déjà l'autorité. Mais le diable vient te dire, non, tu n'as pas. C'est maintenant. Si tu fais ça, voilà ce qui va suivre. Tu seras grand. Et cette sœur-là, Dieu soit béni. Malgré toutes les propositions de cet homme, elle a refusé. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Mais lorsqu'on voit le témoignage de beaucoup aujourd'hui qui chantent dans le monde, beaucoup, je dirais même 80% des groupes, que ce soit les R&B, tous ces gens-là, suivez le témoignage personnel de ces gens-là, ils ont commencé à chanter où? Ils ont commencé à chanter dans les églises. Les Whitney Houston. Le diable te dit, mais non, mais quel gâchis. Le talent que tu as là, le même talent que tu as, voilà ce que tu peux produire. Malheureusement, nous avons tous vu la fin. La drogue. Nous avons vu encore récemment Prince. C'est tous la même fin. Michael Jackson, c'est tous la même fin. On a l'impression que c'est le même démon qui les tue, quoi. Tous la même fin. Arrêt cardiaque, surdose de médicaments, overdose. Voilà ce que le diable produit. Il te dit aujourd'hui, tu as la possibilité d'être quelqu'un. Aujourd'hui, tu peux devenir aussi comme Dieu. Aujourd'hui, tu peux attirer des foules. Je suivais le témoignage, peut-être que certaines personnes connaissent, c'est cet ex-chanteur du monde qui est aujourd'hui s'est converti, Montel Jordan. Et il y a son témoignage sur YouTube. Il parle, on lui demande, mais comment vous êtes arrivé à chanter pour le monde? Il dit, je chantais à l'église. J'avais 21 ans, il a commencé à jouer, il était pianiste à 15 ans. Il jouait, il chantait, jusqu'à ce qu'un jour, la même chose, il a rencontré quelqu'un. Quelqu'un lui dit, bon, je veux te produire. Chaque samedi, il allait dans des boîtes de nuit, dans des bars, et il chantait. Et il dit, c'est bizarre parce que les gens m'écoutaient pour ma voix, parce que moi je ne connaissais pas les chansons du monde, je chantais les chansons de Dieu. Mais les gens aimaient ça. Et il dit, à 21 ans, c'est ça qui m'a interpellé, je me dis oui, c'est ça, le plaisir immédiat. Il dit, à 21 ans, j'étais tous les jours, 7 jours sur 7 à l'église. Je ne travaillais pas, je n'avais pas de revenus financiers, et en même temps que j'étais à l'église, le soir j'étais en boîte, il dit, il suffisait que je chante 2 heures. Je gagne $70. Il dit, bah, quand j'ai vu ça, bah, le choix était tout de suite fait. Et c'est là qu'il a commencé à chanter pour le monde. Il a été connu mondialement. Mais il dit, au fond de moi, je n'étais pas bien parce que je savais que ma place, ce n'était pas dans tout ça. Les gens, quand ils te voient, ils voient que tu es un dur, tu es un costaud, Mais en réalité, au fond de moi, je n'étais pas à l'aise. Et il dit, voilà pourquoi, comme le fils perdu, je suis revenu vers mon père. C'est cela. Il dit, ce qui m'a poussé, c'était l'argent facile. C'est lui-même qui dit ça. C'était l'argent facile, c'était la gloire. Quand tu chantes, tu as une foule autour de toi, il dit à l'église, je chante, eh ben c'est incognito. Les gens te regardent, ils glorifient Dieu, et puis c'est tout. Mais là, tu chantes, il dit, 2 heures, $70. Il suffit que tu chantes 3 soirées d'affilée. Eh ben, le mois, eh ben. Et il dit, tout ça, c'est ça qui m'a poussé à suivre ces choses-là. Le plaisir immédiat, c'est lui-même qui dit. L'argent facile, le plaisir immédiat. Et c'est ça que le diable va vouloir faire aussi avec nous. Nous proposer des choses faciles. Mais qui en réalité nous sortent du plan de Dieu. Qui en réalité nous donne aussi le droit. Pardon, donne au diable le droit d'agir sur nos vies. Mais c'est ce qui s'est passé avec Ève. Adam et Ève avaient l'autorité de Dieu. Le diable vient, il trompe. En trompant, il fait quoi? Il les amène à pécher. Le péché, c'est quoi? C'est rater la cible. Donc, sortir du plan de Dieu. Mais non seulement en sortant du plan de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il donne maintenant accès au diable. L'autorité que l'homme avait, maintenant, c'est le diable qui l'a. Et nous allons voir, le diable a fait la même chose avec Jésus. Il a fait la même chose, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Le plaisir immédiat. Le bonheur immédiat, sur mesure. C'est ce que le diable fait. Il va te proposer la facilité. En te disant, mais regarde comment tu galères. Regarde comment tu galères. Il suffit de faire un CV où tu gonfles un peu ton CV, tu rajoutes ceci, tu rajoutes cela, tu rajoutes... Et on se dit, mais oui, mais qui va savoir? Après tout, c'est sur une feuille. Mais en faisant cela, on fait comme Ésaü. On renonce à l'autorité que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. En faisant cela, c'est comme si nous disions à Dieu, eh bien, tu es incapable de t'occuper de moi. Et qui se réjouit dans ça? C'est le diable qui se réjouit. C'est le diable qui se frotte les mains. La recherche du plaisir immédiat. Dieu n'est pas dans ce fonctionnement-là. Dieu tient compte du temps. Et dans le temps, Dieu nous forme. Dans le temps, Dieu agit dans nos cœurs, dans nos vies, pour enlever tout ce qui n'est pas à sa gloire. Mais le diable va vouloir nous précipiter. Dieu n'agit pas comme ça. Lorsqu'il a fallu créer l'univers, tout ce qui existe, Dieu a pris son temps, 6 jours, alors qu'il est Dieu. Il avait déjà toutes les idées dans la tête, il suffisait qu'il dise une parole et il fait les choses. Mais il a fait chaque chose en son temps, il a pris le temps de faire le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Il a pris le temps, c'est pour nous enseigner aussi, nous dire, ne cherchons pas à nous créer nous-mêmes un bonheur, une satisfaction immédiate. On va se réjouir un instant, mais après, ça sera le dégoût. Or, la Bible dit dans Proverbe 10, 22, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc, c'est-à-dire que lorsque Dieu te bénit, cette bénédiction-là a un bon goût. Mais non seulement c'est toi qui profites de la bénédiction, mais ce sont tous les autres qui sont autour de toi qui vont profiter aussi de la bénédiction de Dieu. C'est cela. Et le diable fait des propositions. Aujourd'hui, il y a des sites qui existent où tu peux choisir les yeux de ton futur bébé qui va naître avec des mères porteuses. Ce sont des choses qui existent. Tout est sur mesure. L'homme calcule. Un bébé aux cheveux blonds. Le père avait telle taille. Le père était un grand sportif. Eh ben moi, dans mes critères que j'aimais... Et tu cliques, hein. Tu cliques. Mais malgré tout ça, l'enfant, pour venir, il faut attendre 9 mois, même si c'est une mère porteuse. Parce que Dieu s'impose quand même. Il y a le temps. Parce que je pense que s'il pouvait imprimer un enfant en 3D, il le ferait. Il le ferait. La satisfaction immédiate. Beaucoup, malheureusement, ont renoncé à leur identité d'enfant de Dieu, de chrétien, à cause du présent. À cause du présent. On oublie qui nous sommes. Et c'est ça l'exemple d'Ésaü. Dieu dit, il a méprisé ce qu'il avait reçu. Nous lisons Luc au chapitre 15, verset 11. Luc 15, 11. Luc 15, verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de carouge que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim, je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de ces mercenaires. » Il se leva, et alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vut et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Amen. Le plaisir immédiat. Le jeune dit à son père, « Mon père, donne ce qui doit me revenir. Donne ma part d'héritage. » Cet enfant était dans le toit de son père. Il bénéficiait de la protection de son père. C'est son père qui pourvoyait à ses besoins. C'est son père qui s'occupait de lui tous les jours. Le repas, la nourriture. Mais pour lui, il a trouvé que ce n'était pas assez. Même s'il avait tout ça, il voulait quand même sa liberté. Pour jouir, profiter pleinement. Mais comment jouir sans argent? Il s'est dit, mon père, on fait comme si tu n'étais plus là. Donc en demandant l'héritage à son père, c'est comme si il avait déjà enterré son père. Son père n'était plus vivant pour lui. C'est ça que ça veut dire. Parce que l'héritage, on le reçoit après la mort du parent. Donc quand il vient, donc il estime que son père n'est plus là. Lui, il veut vivre sa vie. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. Il dit, donne-moi la part de mes biens qui doit me revenir maintenant. Que je prenne ça et que j'aille. le plaisir immédiat, la satisfaction immédiate, le bonheur immédiat. Et toutes les histoires qu'on lit, nous voyons que ce bonheur-là immédiat qu'on cherche humainement, ça a un mauvais goût, puisque ce n'est pas Dieu qui produit cela. La chair, à ce moment-là, elle se réjouit. Elle se réjouit, la chair, elle est comme ça. Elle te pousse, tu as l'impression que là, non, là, je ne peux pas résister. Là, il faut que j'y aille quand même. Et le fils dit à son père, bon, mon père, donne ce qui doit me revenir. Moi, je veux partir. Je vais aller vivre ma vie. Le père dit, ok, d'accord. Il a laissé l'enfant partir. Il n'a pas cherché à donner des explications en disant, la vie, elle est compliquée. Non, non, non. Il a dit, tu veux vivre, va vivre. Et il est parti. Et nous voyons la suite. C'est qu'il a souffert. Il a galéré. C'est ça le mensonge du diable. Il te fait croire que ta situation n'est pas bonne. Alors qu'il était chez son père, il avait tout. Il te fait croire que tel que tu es, eh ben, tu ne peux pas totalement jouir. Comme je suivais une cérémonie d'un artiste musicien africain qui est décédé dernièrement. Et il y a quelqu'un qui faisait un discours, il disait, c'était un bon vivant. Comme nous disons, carpe diem. Carpe diem, ça veut dire, croque la vie à pleines dents, profite jusqu'au bout. Et la Bible dit ça aussi dans Ecclésiaste 12. Jeune homme, profite. Profite du présent, la profite. Mais sache qu'un jour, tu répondras pour cela. C'est cela. Et beaucoup veulent profiter. Ils se disent, attendre, c'est trop long. Ils se disent, attendre, on va dire, 18 ans. Il s'est dit, non, 18 ans, c'est trop long. Moi, je suis jeune, j'ai la force, je peux m'assumer. Comme beaucoup le disent, tu as 15 ans, 14 ans, eh ben, tu penses que tu peux t'assumer. Il dit, bon, je veux m'assumer, c'est maintenant. On commence à répondre aux parents. On commence. Et les conséquences, c'est qu'il s'est retrouvé à souffrir. À souffrir. Voilà les conséquences du bonheur que l'homme veut se créer. Les conséquences du plaisir que l'homme veut se créer. Il a l'identité de Dieu. Il a la nature de Dieu. Il est enfant de Dieu, mais il veut lui-même contrôler. On a eu le séminaire sur l'esprit de contrôle. L'homme veut contrôler les choses. On le voit comment, lorsqu'il planifie, ce n'est pas mauvais de planifier les choses. Ce n'est pas mauvais. Mais nous, en tant que chrétiens, on s'attend à Dieu. L'intelligence nous sert de planifier, mais comme la Bible dit, l'homme fait des propositions, mais c'est Dieu qui dirige ses pas. C'est Dieu qui le conduit. Et là, malheureusement, beaucoup veulent diriger les choses. Il faut que ça soit comme ça. Moi, l'homme que je veux épouser, il faut qu'il soit comme ça. Alors à l'église, on cherche, on attend, il n'y a rien. Internet. Là, tu as même le choix. Tu as tous les choix, donc tu n'as qu'à cliquer. Le plaisir immédiat, malheureusement. Voilà les choses que le diable nous propose. Et les capacités que tu as, ce n'est pas assez. On te dit non, pour que tu aies encore plus, il faut que tu te dopes. On a vu encore, je crois que c'est la semaine dernière, un joueur camerounais, 26 ans, Patrice Ekeng, son prédécesseur est boué sur le terrain. En Roumanie, il est mort. 26 ans. On pourrait se dire, mais quel avenir gâché. Bon, après, c'est peut-être un arrêt cardiaque. Peut-être. Mais on se pose quand même des questions. Parce qu'il y a une réalité aussi dans ce milieu-là. Il y a le dopage, il y a toutes ces choses. On sait que même en travaillant, on aura des performances, mais on se dit, bon, en travaillant un mois, ça risque d'être long. Alors moi, je veux travailler, mais en même temps, ajouter pour accélérer un peu mon rendement. C'est ça. L'homme veut les choses immédiatement. Immédiatement. Il sait qu'il doit travailler pour y arriver. Il se dit, oui, je veux travailler, mais je vais accélérer quand même. Le processus pour que ça aille plus vite. C'est ça. C'est comme ça qu'est l'homme. Et malheureusement, le corps a été créé par Dieu, c'est Dieu qui décide. Et lorsqu'on veut faire les choses plus que Dieu n'a voulu, comme Adam et Ève ont voulu faire, ben la conséquence, c'est la mort. C'est la mort. C'est la mort. Le Seigneur nous dit, sachons attendre. Sachons attendre. Ne cherchons pas à monnayer notre éternité, notre salut, avec des choses qui se présentent à nous. Le péché. On te fait une proposition. Tu sais que la proposition, là, il y a des mensonges dedans. Mais toi, tu cherches ton intérêt à toi. Eh bien, tu signes quand même. En faisant ainsi, tu renies l'identité que tu as reçue du Seigneur. L'identité de chrétien, tu renies cela. Malheureusement, on se dit, bon, Dieu comprendra. Ou je me repentirai après. Dieu pardonne, c'est vrai. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Mais qui sait si tu auras la force même de demander pardon? Parce que même cette force-là, c'est Dieu qui la donne. La force de demander pardon, là, c'est Dieu qui la donne. Et même si cette force-là n'était pas là, est-ce que tu sais quand est-ce que tu vas mourir? Est-ce que tu auras le temps d'arranger les choses avec Dieu? Il y a des gens pour le plaisir de ce monde. Tu es dans le concubinage, on te dit, mets ta vie en règle. Oui, oui, je connais une personne comme ça. Elle a compris tout ce que Dieu dit, elle a compris. Elle est même d'accord, je dirais. Mais son problème, c'est le concubinage. Et c'est elle-même qui dit ça. Mon problème, c'est lui, là. Dieu n'a qu'à le chasser. Non, Dieu ne va pas le chasser. Toi, prends tes responsabilités à toi. Mais entre-temps, tu profites bien, parce que tu as quelqu'un. Tu profites, la chair profite. Mais en faisant ainsi, on méprise la nature de Dieu qui est en nous, comme Ésaü. La recherche du bonheur immédiat, c'est maintenant. Dieu me promet, oui, mais je ne sais pas, ça sera quand. Peut-être que ça sera dans 10 ans, peut-être que ça sera dans 2 ans, peut-être que ça sera dans 3 ans. C'est ça qui fait peur à l'homme. Il se dit, mais encore si je savais plus ou moins. Mais là, comme je ne sais pas, ah, vaut mieux que là, comme j'ai quelqu'un, eh bien, que je le bloque maintenant. Malheureusement, on n'est pas dans la volonté de Dieu. Et beaucoup cherchent à profiter du présent. Ils ne voient pas loin. Ils ne voient pas les promesses qui sont attachées aux chrétiens, les promesses qui sont faites aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Ils ne voient pas cela. Ils disent c'est maintenant, ce n'est pas demain. L'homme charnel. Alors l'exhortation, ce n'est pas une pierre qui est lancée sur quelqu'un. L'exhortation, c'est de dire, en tant qu'humain, nous sommes parfois tentés par la facilité. Nous sommes parfois tentés à prendre là où est notre intérêt. On ferme les yeux même sur la vérité, malheureusement. Sur la Bible, on ferme les yeux, on dit, bon, je fais d'abord la chose et puis après, on verra après, malheureusement. Et Dieu dit, non, ce n'est pas cela. En faisant cela, on méprise Dieu, et on méprise ce que nous avons reçu du Seigneur si nous sommes chrétiens. On méprise cela. Et nous allons voir l'exemple d'un homme spirituel qui a eu la même difficulté. Il dit, il est honnête, il commence en disant, ah oui, Dieu est bon, Dieu est grand. Mais moi, j'ai failli tomber. Psaume 73. Nous lisons cela. Psaume 73. À partir du verset 1er. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser. Amen. Mes pas étaient sur le point de glisser. Comme on nous dit souvent, être près de tomber n'est pas tomber. Dieu nous donne l'occasion aujourd'hui de nous ressaisir, de dire non. Pourquoi je vais mépriser la nature d'enfant de Dieu que j'ai? Pour le péché. Il dit, mon pied était sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme les restes des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence et le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimé. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux. Et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Et il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. Alors voilà ce qui se dit. Quand il fait ce constat-là, il fait un diagnostic, il dit, verset 13, « Donc c'est en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré le sanctuaire de Dieu et j'eusse pris garde au sort final des méchants. » Amen. Prenons garde au sort final de ceux qui abandonnent Dieu. Regardons autour de nous, on a cité des exemples. Toutes ces stars du showbiz qui sont esclaves de la cocaïne, esclaves de l'alcool, esclaves de toutes ces choses. Regardons la fin de tous ces gens-là. Et là, il dit, et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une faim soudaine, comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'est grissé et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Puis, tu me recevras dans la gloire. Amen. Voilà ce que dit cet homme, l'homme spirituel. On a parlé de l'homme charnel. L'homme charnel, c'est celui qui veut toucher. C'est celui qui veut palper. C'est celui qui veut maintenant. Il a les promesses de Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens, 1:18, que les promesses de Dieu sont oui et amen. Il dit oui, je sais tout ça. Mais j'ai attendu. Il y a une phrase, un chantre du monde qui disait que nous avons attendu les choses de Dieu, mais ça traîne. Et quand on était jeune, on écoutait ça, on se dit, bon, c'est une phrase comme ça. Mais en réalité, on comprend à qui il appartient. Donc cette phrase-là veut dire beaucoup. Il dit, on a attendu le chemin de Dieu, mais ça traîne. Ça veut dire quoi? Qu'ils ont pris le chemin raccourci. Ils ont préféré faire des contrats sataniques avec le diable parce que c'est plus rapide. C'est plus rapide. Ils se disent avec Dieu, c'est incertain. Au moins avec le diable, parfois c'est des contrats de sang. Il signe lui-même sa vie. Il dit, j'aurai un succès pendant 5 ans, pendant 10 ans. Et le diable peut même te faire te bluffer, te dire pendant 35 ans, comme les dictateurs. 35 ans, c'est beaucoup, comme on le dit souvent. Un enfant qui naît, qui va à l'université, qui finit ses études, qui se marie, 35 ans, c'est interminable. Et quand tu signes ce contrat-là, président pendant 35 ans, c'est comme si tu étais président à vie. Malheureusement, un jour, les 35 ans passeront. Ça passera. Ça passera. Malheureusement. Et il dit, on a attendu les choses de Dieu, mais c'est trop long. Nous, on prend des raccourcis. C'est ça le païen. Mais c'est aussi l'homme charnel. Il trouve que Dieu, c'est trop long. Il trouve qu'il est pur. Il est correct. Il voit les autres qui s'en sortent plus ou moins. Avec une vie de couple, avec une famille plus ou moins rangée. On se dit, oh là là, ils sont tellement bien. Je veux faire comme eux. Malheureusement, tu ne connais pas le dessous des cartes. On a vu des familles qui apparemment étaient bien. Mais voilà que derrière, il y a des suicides. Il y a des tentatives de suicide. Il y a de l'alcool. C'est cela. C'est ça la réalité. Nous, on regarde tout simplement. Et là, le diable te susurre, te dit à l'oreille, mais regarde. Mais toi, tu es chrétien. Ça fait combien de temps que tu pries? Ta maladie, là. Tu Tu as essayé les médecins, ça ne marche pas. Va rencontrer quelqu'un, va rencontrer un guérisseur. Va faire l'homéopathie. Va essayer. Et là, on s'est dit, oui, mais oui. Après tout, mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Ah, on sort de la voie de Dieu. On sort de la voie de Dieu. Et Asaph dit, il dit, oui, Dieu est bon pour Israël. Il dit, Dieu est bon pour moi. Lorsqu'il dit ça, il compte, il voit la fidélité de Dieu envers Israël depuis que Dieu a eu son histoire avec Israël. Asaph se souvient de cela. Il dit, oui, j'ai failli tomber en voyant comment les méchants prospèrent, ils vivent, ils trichent et ils s'en sortent. Il dit, j'ai voulu aussi faire comme eux. J'ai voulu parler comme eux. Ça veut dire, j'ai voulu aussi faire aussi les choses qu'ils font. Mais quand j'ai essayé, j'ai vu, non, moi je suis un enfant de Dieu, je ne peux pas faire cela. Je ne peux pas vendre mon autorité, ma nature d'enfant de Dieu pour un plat, pour la nourriture. La nourriture, pourquoi la nourriture? Parce que la nourriture, c'est quelque chose qui fait plaisir. Manger un bon repas quand tu as faim, eh ben, tu jouis, tu te réjouis de cela. C'est quelque chose qui est bon pour la chair. Mais bizarrement, quand tu es rassasié, eh ben, cette joie-là que tu avais n'est plus même. Elle n'est plus. Même si on te présente le plat que tu aimes le plus, mais si tu n'as plus de place, tu es limité. Tu ne pourras même plus le manger. Mais c'est à l'instant là, quand on te présente la chose, tu dis, ah, voilà. Voilà. Asaph dit, j'ai voulu faire comme eux, mais il y a quelque chose en moi qui m'a dit, non, ça ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Et gloire à Dieu, il n'est pas tombé. Alors le Seigneur nous parle aujourd'hui. Il nous dit, sachant attendre. C'est sa bénédiction à lui qui est la véritable bénédiction. Et parfois les choses traînent. Dieu sait pourquoi ça traîne. Il sait. Il sait pourquoi. Il est écrit dans Matthieu 6, le vêtement, la nourriture, mais les païens aussi, ils ont ces choses. Alors si Dieu donne ça à tous les hommes et que moi je manque de cela, c'est qu'il y a une raison. Parce que Dieu le donne même à ceux qui ne demandent même pas. Donc si moi je n'ai pas ça, en tant qu'enfant de Dieu, c'est qu'il y a une raison. Dieu veut m'enseigner quelque chose. Peut-être m'épargner de tomber dans l'orgueil. Peut-être parce que mon caractère. Dieu veut faire un travail. Il veut me briser. Il y a des gens qui veulent un mari, une femme. Mais le caractère, un caractère dur, difficile, qui ne sait pas vivre avec les gens. Alors Dieu, voyant cela, eh ben il va d'abord nous travailler. Il va nous travailler. Il va nous révéler des choses parce qu'il est fidèle. Il va dire, regarde. Mais parfois, on ne fait pas attention, on ne veut pas. Et c'est là que le diable va te dire, comme ça traîne, prends le chemin le plus facile. Regarde, là le temps passe. Tu as 25 ans, 26 ans, tu as 30 ans. Qu'est-ce que tu as fait? Allez, profite, carpe diem. Profite, c'est maintenant. Après, ça sera trop tard. Et effectivement, ça risque d'être trop tard. Malheureusement. Et Asaph n'a pas voulu céder à ce plaisir immédiat, à cette tentation immédiate, à cette facilité immédiate, à ce bonheur fabriqué sur mesure. Asaph a refusé. Il a dit non, je préfère rester comme je suis. Mais attendre la délivrance du Seigneur lorsque le Seigneur agira. Amen. Je préfère attendre, m'attendre à Dieu. C'est cela. C'est cela, bien-aimé. Et nous finissons pour voir l'exemple de notre Seigneur qui a été aussi soumis à cette épreuve du diable, la même que nous avons vue avec Adam et Ève, Luc, chapitre 4. Luc 4, à partir du verset 1er. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain. » Amen. Il dit à Jésus, « Si tu es le Fils de Dieu. » Pourquoi il dit ça? C'est parce qu'il a entendu. Lorsque le Seigneur, lorsque Dieu a parlé en disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Le diable a entendu ça. Et il vient vers Jésus, il dit, « Mais si tu es le Fils de Dieu, regarde ta situation. Tu as faim, n'est-ce pas? Eh bien, ordonne maintenant que ces pierres deviennent des pains pour les manger, parce que tu as faim. » Et comme je pense qu'on a déjà fait plusieurs études bibliques là-dessus, pourquoi le diable ne propose pas à Jésus autre chose à ce moment-là? Il propose ça parce qu'il sait que c'est ça qui va répondre directement aux besoins du Seigneur. Comme il a faim, eh bien, il lui propose du pain. Je donne un exemple. Tel que je suis ici, quelqu'un veut me voir pour me dire, eh bien, est-ce que tu veux devenir président de la République? Ah, moi, ce n'est même pas dans le moindre de mes rêves. Pas du tout. Mais cette proposition-là, s'il va voir un député, un conseiller du président, comme actuellement Macron, là, qui a des idées, pour lui dire, eh, veux-tu devenir président de la République? Ah, là, ça va faire écho parce que c'est par rapport à ses attentes, à la convoitise qu'il a, aux attentes qu'il a, Satan répond directement. Il dit, tu veux un mari? Eh bien, voilà maintenant ce que je te propose. Tu veux l'argent? Voilà l'argent que je te propose. Il te propose quelque chose pour répondre, apparemment, répondre directement à ton besoin. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne, c'est maintenant. Jouis maintenant. Ordonne à ces pierres de devenir du pain. Voyons la réponse du Seigneur. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Amen. Voilà la deuxième proposition qu'il fait, le mensonge du diable. Il dit, voilà les royaumes de la terre, tout cela, ça m'appartient. Alors je peux te les donner, mais prosterne-toi devant moi. Or, qu'est-ce que nous savons? Nous savons que Jésus est roi. Jésus est le roi des rois, amen. Jésus est le roi des rois. Mais il y a quelque chose, c'est que son royaume n'est pas encore manifesté. Même si tous les jours en tant que chrétien, nous vivons la gloire de Dieu, du Seigneur en tant que roi. Mais viendra un jour où tout le monde verra ça. Et le diable veut dire à Jésus, non. Ce que Dieu te dit là, c'est quand tu reviendras dans ta gloire une autre fois. Mais là, moi je te propose maintenant de devenir roi devant tout le monde. Que tout le monde te voit, que tout le monde t'acclame. Voilà les propositions du diable. Voilà. Jésus est déjà roi, mais il lui fait croire qu'il n'est pas roi. Il lui fait croire que lui, il peut lui donner quelque chose qu'il n'a pas. Malheureusement, c'est ça. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Nous sommes chrétiens. Nous sommes enfants de Dieu. Les promesses sont à nous. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour nous. Mais le diable vient te voir pour te dire, mais tu n'as rien. Donc aujourd'hui, répondons au diable, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, j'ai tout ce qui va avec l'autorité d'enfant de Dieu. Il me protège contre les démons. Il me donne la victoire sur le péché, sur les démons. Il pourvoit mes besoins. Il est là tous les jours. C'est la sécurité, ma sécurité, c'est lui. Le diable va te dire, mais tu n'as rien. Voilà comment il a voulu tromper le Seigneur. Il dit aujourd'hui même, prosterne-toi. Malheureusement, une proposition comme ça, beaucoup, pour le plaisir immédiat, eh ben, il cède. Jésus a dit non. Il a refusé la proposition du diable. Nous continuons la lecture. Donc verset 6, « Je te donnerai toute cette puissance, la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas et, car il est écrit, donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Amen. Le diable a voulu sortir Jésus du plan de Dieu. Il a dit, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Si tu as la capacité, fais maintenant. Et malheureusement, le diable va vouloir faire aussi la même chose avec nous, avec toutes sortes de propositions. En te disant, il est écrit. Il est écrit. Comme on parlait tout à l'heure des gens de la prospérité. Un chrétien doit prononcer des paroles. Prononcer des paroles, c'est bien, mais avec foi. Mais malgré tout, même si je prononce ces paroles-là, tu ne seras jamais la queue, tu seras toujours la tête. Toutes ces paroles, oui, c'est vrai. Mais on est quand même soumis à la volonté de Dieu. Beaucoup sont aigris dans tous ces endroits-là parce qu'on te dit, un chrétien ne doit pas tomber malade. Un chrétien doit toujours avoir une bonne position sociale. Un chrétien doit toujours. Non, ça c'est des choses de la terre. Les promesses, oui, on les a. On les a, ces promesses-là. Mais c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide. Je connais une personne avec qui j'ai discuté. Là où elle est, on dit un chrétien ne doit pas tomber malade. Et la personne maintenant est malade. Et elle est mal à l'aise quand elle va à l'église. Et comme on prie pour elle, elle ne guérit pas, on lui dit tu n'as pas de foi. Voilà les charlatans, voilà où ils arrivent. Et là, en te disant tu n'as pas de foi, ils vont t'emmener chez quelqu'un qui va t'imposer les mains et malheureusement, il va te rajouter encore des démons. Il va te rajouter des démons. Les gens cherchent leur bonheur sur mesure aujourd'hui, pas demain, non. Non. Gardons la foi. Attendons-nous au Seigneur, comme il est écrit dans Lamentation 3, verset 25. Dieu aime ceux qui espèrent en lui. C'est ça la foi, espérer en Dieu. Je me faisais la réflexion, je me disais, pourquoi Dieu aime ceux qui espèrent en lui? Quel est ce parent qui va apprendre que son enfant, tous les jours, va mendier chez le voisin une paire de baskets? Va mendier chez le voisin le repas? Va mendier chez le voisin un jogging. Un parent sensé qui apprend ça, est-ce qu'il sera fier? Il ne peut pas être fier. Il sera blessé parce que ça veut dire que... Donc il va se dire, mais c'est comme si l'enfant, mon enfant pense que je suis incapable de lui donner. Même s'il n'a pas de moyens. C'est blessant de voir que ton enfant va toujours quémander chez le voisin une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. C'est très blessant. Parfois, c'est à l'école qui va commander aux enseignants. Lorsqu'un parent sensé entend ça, eh ben, il est triste. Eh ben, Dieu éprouve la même tristesse lorsque nous qui sommes ses enfants, on va commander à gauche, à droite. Il dit, mais c'est pas possible. Mais moi, je suis là. Voilà pourquoi c'est écrit. Dieu aime ceux qui espèrent en lui. La foi, c'est faire confiance. C'est ça. Et on ne peut avoir confiance en quelqu'un que si on l'aime. Comment avoir confiance en une personne qu'on n'aime pas? Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi il dit, il aime ceux qui espèrent en lui. Et il est écrit verset 26, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. Sachons attendre que Dieu agisse. Les propositions viendront. Les tentations de facilité viendront. Comme les gens du monde disent, aide-toi, le ciel t'aidera, c'est satanique. C'est le diable, non. Moi, je fais ma part, mais je m'attends à ce que Dieu agisse. J'ai déposé mes CV, eh bien, je prie. Je ne veux pas commencer à chercher à manipuler. Lorsqu'on a lu dans Genèse, j'ai oublié d'en parler, Genèse 3, le premier verset, c'est écrit quoi? Le serpent était le plus rusé. Et dans les dictionnaires, rusé, c'est la ruse, c'est le fait d'arriver à ses fins par des moyens qui sont malhonnêtes. C'est ça la ruse. je veux un poste, je veux quelque chose, et bien pour l'obtenir, et bien je passe par derrière. Je dénigre les collègues, je dénigre un tel, je dénigre un tel, je... tout ça pour obtenir mon butin. C'est ça la ruse, et c'est ce qui est dit du diable, le plus rusé de tous les animaux. En parlant du serpent dans Genèse 3, c'est cela. Et parfois, il va vouloir nous faire tomber aussi dans la même chose, dans la ruse, pour obtenir, mais non. On a vu la conséquence, c'est que Adam et Ève ont péché, et la conséquence a suivi jusqu'aux générations aujourd'hui. On a vu le fils perdu qui a voulu son bonheur, tel qu'il avait imaginé. Mais la réalité, c'est que les choses sont différentes. La réalité, c'est que les choses sont différentes. Il a compris qu'avec Dieu, avec son Père, il était mieux. Il y a des gens qui ont voulu à tout prix avoir quelqu'un sans le Seigneur. Aujourd'hui, ils se mordent les doigts. Ils se mordent les doigts. Alors la bonne nouvelle de ce matin, c'est nous dire, il n'est pas trop tard. Aujourd'hui, on peut faire comme Asaph, on peut faire comme le fils perdu, pour dire, Seigneur, je n'ai pas tenu compte de toi. J'ai voulu faire les choses parce que j'en avais envie tout de suite, parce que j'avais une convoitise au fond de moi qui m'a poussé à faire ceci, à faire cela, tel mensonge. Seigneur, aujourd'hui, je te demande pardon. Aujourd'hui, Seigneur, je veux marcher selon ce qui est écrit, comme Jésus a dit. Il est écrit. Le diable a voulu lui dire, c'est aujourd'hui. Prouve, fais ceci, fais cela. Il a dit non. Montre que tu es roi. Il a dit, je n'ai pas à montrer, je suis déjà roi. Il est arrivé devant Caïphe, il est arrivé devant Pilate. Es-tu le roi des Juifs? Il dit, mais c'est ce que tu dis là, qui t'a dit ça? C'est toi-même qui l'as dit. Il n'a pas approuvé. Il n'a pas approuvé. Alors sachons attendre. Ne tombe pas dans les pièges du diable. Regarde les capacités que tu as. Mais c'est du gâchis. C'est du gâchis. Je me mets à la place du Seigneur Jésus à 12 ans qui parlait dans le temple avec la connaissance qu'il avait. Peut-être que les gens autour de lui lui disaient mais enseigne-nous, mais parle-nous. Mais il a attendu jusqu'à 30 ans. Il a attendu, lui le Fils de Dieu. Il a attendu, il connaissait. Il avait réponse à tout puisqu'il est Dieu lui-même. La sagesse même, la parole, c'est lui. Mais il a attendu jusqu'à ce que son père lui dise, « Vas-y maintenant. » Alors, sachons attendre. Ne serons pas comme Ésaü pour un plaisir charnel à renoncer à son autorité, à renoncer à sa nature d'enfant de Dieu, à renoncer même à l'éternité avec Dieu. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que, Seigneur, tu nous rappelles aujourd'hui, Seigneur, que, Seigneur, toutes les promesses qui sont dans la Bible sont pour nous, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu nous rappelles aujourd'hui, Seigneur, que c'est toi qui prends soin de nous. Et, Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons mis de côté ta parole, Seigneur. Pour nous créer nous-mêmes notre propre bonheur, notre propre satisfaction. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où, Seigneur, nous avons douté de ta puissance, Seigneur. Pour toutes les fois, Seigneur, où nous sommes même tombés dans le compromis, où nous avons péché, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Toi qui es le Dieu vivant, aide-nous, Seigneur, à ressembler à ton fils Jésus, qui n'a pas cédé à la tentation du diable, du présent. Seigneur, aide-nous. Tu as dit, Seigneur, que le disciple accompli sera comme son maître, et notre maître à nous, c'est Jésus-Christ notre Seigneur. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides. Si c'est la convoitise, Seigneur, si c'est l'orgueil, Seigneur, si c'est le fait, Seigneur, d'être vu ou apprécié des gens, Seigneur, qui peut nous faire tomber, Seigneur. Seigneur, nous prions pour que tu nous libères, que tu nous délivres de cela. Nous voulons, Seigneur, apprendre à attendre, Seigneur. à attendre ta bénédiction, comme il est écrit dans le Proverbe 10, 22, c'est ta bénédiction qui enrichit, Seigneur. Et lorsque tu bénis, Seigneur, c'est nous qui profitons, mais tous ceux qui sont autour de nous profitent aussi de cela. Et nous prions pour que tu nous aides, que tu nous libères de l'égoïsme qui fait que nous pensons à nous, Seigneur. Au nom de Jésus, agis, Seigneur, au milieu de nous. Toi, le Dieu vivant, le Dieu fidèle. Seigneur, ouvre nos yeux afin que nous puissions réaliser que nous sommes tes enfants, Seigneur. Ouvre nos yeux afin que nous puissions réaliser que nous t'appartenons. Ouvre nos yeux afin que nous puissions réaliser, Seigneur, que nous sommes les enfants du roi des rois. Et que nous n'avons pas, Seigneur, à trembler devant les propositions du diable, Seigneur, qui veut nous proposer un faux bonheur terrestre, charnel. Seigneur, donne-nous la foi, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta parole, Seigneur, qui agit en nous, Seigneur, et qui nous aide, Seigneur, à nous positionner pour toi. À toi la gloire et la louange au siècle des siècles, au nom de Jésus.